Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Voilà un débat qui semblait appartenir au passé, celui opposant deux formes de médecine, l'une conventionnelle, l'autre alternative. Les succès de l'homéopathie, de l'acupuncture, de l'ostéopathie laissaient supposer que leur place, sans être tout à fait officielle, était désormais consolidée. D'ailleurs, près d'un tiers des médecins prescrivent aujourd'hui en France, de manière occasionnelle, des traitements homéopathiques. D'où une certaine surprise à la lecture de la tribune publiée la semaine dernière dans le Figaro et signée par plus d'une centaine de médecins et de professionnels de santé. Ces pratiques, écrivent-ils, à propos des médecines alternatives, sont basées sur des croyances promettant une guérison miraculeuse et sans risque. Or, elles sont dangereuses à plus d'un titre, notamment ce que, je cite à nouveau, « leur usage retarde des diagnostics et des traitements nécessaires, avec parfois des conséquences dramatiques ». Alors, les signataires préconisent de ne plus rembourser les soins liés à ces pratiques et de ne plus reconnaître les diplômes afférents comme des disciplines médicales. Les professionnels concernés contestent évidemment cette approche, ils dénoncent une campagne de désinformation. Mais justement, de quelles informations dispose-t-on aujourd'hui pour trancher sur le sujet ? Les médecines alternatives font-elles plus de mal que de bien ? C'est autour de cette question que nous allons discuter donc pendant les prochaines 40 minutes en compagnie de trois invités. Christian Lehmann, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin généraliste, romancier. Vous êtes un des signataires de cet appel publié dans le Figaro donc contre l'utilisation des médecines alternatives. Pour discuter avec vous, Hélène Renoux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes également médecin généraliste. Vous présidez la Société savante d'homéopathie et le Comité européen d'homéopathie. Et puis notre troisième invité, Bruno Falissard, bonsoir.
Bonsoir.
Pédopsychiatre et biostatisticien. Vous dirigez l'unité INSERM 01018, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire les chiffres. Cette unité, en tout cas, est chargée par le ministère de la Santé de plusieurs rapports d'évaluation de l'efficacité des thérapies non conventionnelles. Thérapies non conventionnelles, médecine alternative ou non conventionnelle, j'imagine qu'on est à peu près dans le même registre. D'ailleurs, on parle de quoi quand on parle de médecine alternative, Bruno Falissard ?
Oh ben pour le dire vite, ce sont les médecines qui ne sont pas enseignées de façon majoritaire dans les facultés de médecine au sens large. Donc il y a la médecine traditionnelle, et puis autour des facultés de médecine, il y a les soins infirmiers, la kinésithérapie, l'orthophonie, etc. Tout ça, ça fait partie du panorama habituel de la médecine.
Est-ce que la dimension de preuve scientifique entre en compte pour distinguer les unes des autres ? C'est-à-dire, est-ce que la médecine traditionnelle, c'est quelque chose qui peut être prouvé scientifiquement, alors que les médecines alternatives, c'est plus compliqué ?
Eh bien, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Il y a une question d'argent, c'est-à-dire aujourd'hui, quels sont les soins qui sont bien évalués ? Ce sont les soins médicamenteux. Pourquoi ? Parce qu'on demande aux firmes pharmaceutiques de payer pour les évaluer, et ça coûte très cher, vous savez. Un essai randomisé, c'est-à-dire ou anti-ressort avec des médicaments, peut coûter jusqu'à 200 millions d'euros. Un essai, un médicament, une indication. Donc vous imaginez qu'en dehors du champ des médicaments, par exemple la chirurgie, qui est un soin conventionnel, elle est très mal évaluée aussi. Donc dès qu'on quitte le médicament, on est dans un domaine où l'évaluation est difficile, pour des raisons financières essentiellement.
Alors est-ce qu'on quitte le médicament quand on est dans l'homéopathie et quand on se fait prescrire un traitement homéopathique, Hélène Renoux, est-ce que ce sont des traitements qui justement bénéficient d'évaluations aujourd'hui, de tests cliniques comme les médicaments traditionnels ?
Le médicament homéopathique, il est placé sous l'égide de l'Agence du médicament et bénéficie d'une procédure d'évaluation par un groupe de travail qui dépend du ministère de la Santé. Par contre, il a une procédure particulière qu'on appelle la procédure de l'enregistrement homéopathique qui, en fait, évalue le médicament au niveau de sa toxicité, mais au niveau de son usage traditionnel. Donc en fait, ce groupe de travail collecte des cas cliniques, collecte des publications précédentes, mais il y a peu d'études randomisées en double aveugle qui permettent, selon les principes de l'evidence-based medicine, de l'évaluer.
Alors là, vous entrez dans du vocabulaire peut-être un petit peu technique, peut-être pour que ça soit un petit peu plus accessible pour tous nos auditeurs. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de tests cliniques qui sont faits sur ces produits aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on cherche simplement à savoir s'ils peuvent être toxiques, mais qu'il n'y a pas de test pour savoir s'ils ont un effet véritable pour soigner, par exemple, une maladie ?
Si, il y a des tests cliniques. D'abord, il y a des collectes de cas cliniques. Ensuite, il y a des expérimentations pathogénétiques. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous expliquer comment ça fonctionne, mais c'est ce qui permet de dégager l'indication, hein, enfin, en gros, les propriétés thérapeutiques du médicament homéopathique. Il y a une somme de toutes ces informations qui s'appelle la matière médicale. Et en fait, c'est l'outil de travail des médecins homéopathes.
Alors, est-ce que ces tests qui sont menés, pour vous, Christian Lehmann, sont suffisamment peu convaincants pour justifier le fait de parler de charlatanisme, par exemple, pour qualifier ces pratiques médicales, parmi lesquelles c'est sans doute la plus connue, parce que la plus répandue, l'homéopathie?
D'accord, alors je vais d'abord commencer par quelque chose qui est obligatoire pour les trois professionnels de santé que nous sommes. Quand on parle dans la presse écrite ou audiovisuelle, les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et des établissements produisant ou exploitant des produits de santé, des médicaments, doivent le dire. Donc je vais commencer par dire que j'ai zéro lien avec quelque laboratoire que ce soit Big Pharma ou des laboratoires homéopathiques.
Est-ce que c'est alors également le cas de Bruno Falissard et Hélène Renaud? Alors faisons œuvre de transparence totale.
Moi, j'en ai plein. Je collabore en méthodologie et en statistique avec la quasi-totalité des firmes pharmaceutiques, sauf les laboratoires homéopathiques.
Et vous, Hélène Renaud?
Non, je n'ai pas lien d'intérêt.
Alors, Christian Lehmann, je vous laisse poursuivre.
Ça peut se vérifier pour nous trois sur transparencesanté.gouv. Alors, le Code national de l'ordre des médecins dit que les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé et continue toute pratique de charlatanisme est interdite. C'est donc pas nous qui parlons de charlatanisme, c'est le Conseil national de l'ordre des médecins. Je crois qu'il y a plein...
Ça, j'imagine que tout le monde est d'accord pour dire ça, c'est-à-dire un médecin ne peut pas être un charlatan.
Je vous ai dit exactement ce que dit le Conseil de l'Ordre des médecins, c'est que si vous proposez à un malade comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé, le Conseil de l'Ordre considère que vous êtes un charlatan. Alors, s'il y avait que nous, s'il y avait que 120 pégus dans leur coin qui râlaient en disant oh, les homéopathes, ils ont une plus grosse voiture, ils ont un plus gros cabinet, ils demandent des consultations plus chères, etc. et qui râlaient. Mais il se passe quelque chose dans le monde entier quand même. L'Australie a conseillé de cesser tout remboursement de l'homéopathie. Le National Health Service en Angleterre a fait la même chose. Aux États-Unis, chaque boîte de produits homéopathiques doit marquer la mention « n'a aucune efficacité prouvée ». En Espagne, après avoir ouvert il y a une dizaine d'années des sections d'homéopathie, les grandes universités sont en train de les fermer les unes après les autres. La dernière, je crois, c'est celle de Barcelone, parce qu'ils considèrent qu'il faut arrêter avec ça. Donc, c'est un petit peu compliqué. Nous, on se retrouve dans la position, on n'est pas lié à l'industrie pharmaceutique, on se retrouve dans la position du gamin qui voit passer le cortège et qui est un des premiers à dire « Ah mais l'empereur est nu ». Alors évidemment, pour les gens qui applaudissent l'empereur depuis un moment en disant que ses vêtements sont superbes, il se trouve un peu en dissonance cognitive. Mais c'est pas nous qui avons décidé ça tout seul. C'est l'Académie des sciences européennes, le Conseil scientifique des Académies des sciences européennes qui explique qu'il y a 2 ans, il n'existe pour aucune maladie, aucune preuve scientifiquement établie et reproductible de l'efficacité des produits homéopathiques.
C'est même s'il y a parfois un effet placebo.
Mais bien sûr.
C'est ce qui est précisé dans le texte.
On est tout à fait d'accord. Il y a ce qu'on appelle un effet placebo ou un effet contextuel. Et l'effet contextuel, il existe dans la pratique de tout médecin. C'est-à-dire que la personne qu'on voit devant nous, c'est pas juste une masse biologique ou biochimique. Notre présence près du patient change quelque chose, ça c'est certain.
Alors reprenons justement cette phrase du Conseil scientifique des Académies des sciences européennes. Ça date de septembre 2017 en fait, ce constat. Il n'existe pour aucune maladie, aucune preuve scientifiquement établie et reproductible de l'efficacité des produits homéopathiques, même s'il y a parfois un effet placebo. Est-ce que vous êtes d'accord ou en désaccord avec ce constat-là, Hélène Renoux, et ensuite Bruno Falissard? Hélène Renoux.
Personnellement, je suis en profond désaccord parce que en fait, cette affirmation par certaines académies des sciences européennes s'appuie sur deux comptes rendus, deux méta-analyses. Le premier, c'est le compte rendu australien qui fait l'objet d'une plainte auprès de l'Ombudsman du Commonwealth parce qu'en fait, il y a eu des graves biais. C'est-à-dire qu'en fait, cette étude australienne est la deuxième qui a été publiée. Il y en a une première qui a été publiée dont le résultat était positif et qui a été mise sous le boisseau. Et elle a été refaite en changeant les critères d'évaluation de façon à s'assurer que le résultat en serait bien négatif. Quant au truc à la déclaration du NHS là, qui est passée à la Chambre des Lords, elle a été remise en cause et en fait le rapporteur, l'unique rapporteur, parce que tous les autres c'était démis de cette fonction, n'a jamais pu rendre compte des biais méthodologique parce qu'il n'a pas été réélu.
Alors vous, en tout cas, vous contestez finalement les études qui disent qu'il n'y a en fait aucune preuve scientifique de l'efficacité de ces produits. Est-ce qu'on dispose aujourd'hui, Bruno Falissard, d'études indépendantes qui permettent d'apporter la preuve du contraire, c'est-à-dire qui permettent de faire le constat qu'il peut y avoir une efficacité thérapeutique de ces produits? Et d'ailleurs, ça suppose aussi peut-être de définir ce qu'on entend par efficacité de ces produits.
Voilà, exactement. Alors, non, à la louche, effectivement, quand on regarde la littérature internationale, il n'y a pas d'études qui étayent l'efficacité, qui étayent scientifiquement l'efficacité de l'homéopathie. Donc, oui. Alors après, néanmoins...
Si on n'a pas, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'études? Vous disiez au début, alors, ça coûte cher.
Alors, mais là, j'ai parlé des soins non conventionnels en général. Oui. L'homéopathie est un cas très particulier parce que ce sont des médicaments. Donc, il y a des firmes pharmaceutiques qui peuvent dépenser de l'argent pour faire les études. Donc, c'est un cas très particulier, l'homéopathie, parmi les soins non conventionnels. Alors après, il y a quand même des nuances. On ne peut jamais prouver scientifiquement qu'un médicament n'a pas d'efficacité. On ne peut pas montrer une absence d'efficacité. On peut montrer qu'elle est sûrement très limitée, mais on ne peut pas montrer qu'elle est nulle. Alors ça, c'est un premier point méthodologique. Après, effectivement, il y a moins d'études, mais il y en a quand même. Mais je dirais, mais ce n'est pas ça la question. La question, vous l'avez dit tout à fait au début, et d'ailleurs, elle est dans l'article du Figaro. Moi, j'accepte l'idée que l'homéopathie n'a pas une efficacité tellement différente que ça d'un placebo. Mais... en fait, nous avons besoin de médicaments qui sont des placebos. Et je suis médecin et je le dis. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, à la limite, quand un patient guérit grâce à un placebo, on va sous-entendre qu'il a eu tort de guérir. Hein. C'est-à-dire que oui, effectivement, il faut être un peu humble. En médecine, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Et par moment, nous guérissons grâce à une injonction thérapeutique ou à autre chose que l'on ignore et qu'il faut étudier. Il faut faire des études scientifiques sur les placebos. Il y en a pas encore assez parce que naturellement, les firmes pharmaceutiques vont pas financer des études sur les placebos. Mais donc, il se peut que certains médecins utilisent des techniques qui s'apparentent à des placebos et qu'ils savent très bien utiliser. Et donc, ils rendent service à des patients. Et donc, quelque part, pour moi, ce ne sont pas des charlatans.
À partir du moment où on rend service aux patients, est-ce que ce n'est pas ça la première mission du médecin Christian Lehmann? Est-ce que ce n'est pas ça qui doit être essentiel, finalement, de se dire, plutôt que de savoir si tel produit a un effet ou pas, si le patient, lui, sort, se sent mieux après s'être vu administrer un traitement, même si ça n'est qu'un placebo, après tout, pourquoi pas, non?
Un monde de médicamentation ultime, où à chaque fois que vous avez un souci, on va vous trouver un médicament à mettre en face. Je suis pas sûr que c'est le monde dans lequel je veux vivre en tant que médecin conventionnel. Je me bats déjà, si j'ose dire, contre l'industrie pharmaceutique, Big Pharma, pour ne pas donner un médicament contre le cholestérol à toute personne qui a un cholestérol supérieur à 2,20 g, par exemple. Je me bats parfois pour diminuer des traitements qui ont été mis en place depuis des années, dont les effets indésirables combinés entraînent des effets néfastes sur les patients. On est, dans la médecine traditionnelle, très conscient du rapport qu'on a avec l'industrie du médicament, des liens d'intérêt qu'ont eu certains, des patrons, des grands patrons qui ont fait vendre des médicaments qui servent à rien. Je rappelle que Sylvain Bourmeau, qui est à France Culture, et moi, en 2011, on avait été parmi les premiers à lancer l'alerte sur les médicaments anti-Alzheimer, qui non seulement servent à rien, et on le sait, maintenant, c'est avéré. Mais bon, donc, on se pose la question sur ces médicaments-là. Je vois pas pourquoi je me la poserais pas sur... une dilution de foie de canard qui a été rincée 25 000 fois, qui a été secouée dans tous les sens, parce qu'il y a 250 ans, on a cru que dans le foie de canard, il y avait un oscillocoque qui pouvait donner la grippe, alors qu'on sait aujourd'hui que l'oscillocoque ne donne pas la grippe et qu'en fait, c'est le virus de la grippe. Donc, sur une base théorique qui est totalement fausse, tu as 250 ans à diluer des choses et à les secouer. Et aujourd'hui, alors qu'on nous dit que la médecine homéopathique est ciselée autour de chaque individu, Boiron se fait des couilles de canard en or en vendant à tout le monde le même produit contre la grippe. Ce qui pose quand même un problème, parce que la grippe, c'est une maladie qui peut être grave et mortelle si elle n'est pas soignée avec des produits utiles.
Si ça fait du bien aux patients.
Mais la musique me fait du bien aussi. Je ne demande pas qu'elle soit financée sur vos impôts.
Bien sûr. Alors Bruno Falissard et ensuite Hélène Renaud. Bruno Falissard.
Ah mais je suis complètement d'accord. La question du remboursement de l'homéopathie est complètement différente de la question de son utilité clinique.
Hélène Renaud.
Moi, je trouve, en fait, je suis très en demande d'études dont la méthodologie sera adaptée pour évaluer le bénéfice de la médecine homéopathique et du médicament. En ce qui me concerne, et hélas, je ne roule pas sur l'or parce que c'est une médecine exigeante et lente et mal payée. Je ne donne pas aussi le coccinome à tous mes patients grippés, je donne un traitement individualisé. Et je me rends bien compte que si je me trompe de médicament, quelle que soit ma grande empathie envers mes patients, ils ne sortent pas guéris. Donc j'ai bien pu faire la différence entre la bonne prescription et la mauvaise prescription. Et si j'étais le seul médicament avec des boules de sucre inopérantes, je ne vois pas pourquoi telle prescription fonctionnerait et telle autre ne fonctionnerait pas sur le même patient.
Mais ce que j'entends dans ce que vous dites, Hélène Renaud, c'est qu'à la fois vous ne disposez pas de suffisamment d'études pour, sur lesquelles vous appuyez pour avoir absolument la certitude de l'effet que peuvent avoir ces produits. En même temps, vous le constatez, mais de manière seulement empirique. C'est-à-dire, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, alors que l'industrie du médicament homéopathique est quand même assez importante, comme d'autres, hein, d'ailleurs, bien entendu, on n'est pas en mesure aujourd'hui de trancher sur cette question. Est-ce que ça n'est que du placebo ou pas ?
En fait, l'industrie pharmaceutique préfère largement oscillococcinome délivré sur le comptoir à grande échelle qu'une prescription individualisée d'un seul tube, 2 euros, délivré au patient qui va guérir en 2 jours et qui va cesser de consommer du doliprane, de l'aspirine et du sirop.
Bruno Falissard.
Excusez-moi, vous dites ça, c'est une... Je ne veux pas être blessant, mais c'est l'impression que vous avez de là où vous êtes, c'est une impression clinique personnelle. Moi aussi, j'ai les miennes. Et parfois, j'ai été obligé, en tant que médecin, parce qu'il y a quand même une part de science dans ce que je fais, de relativiser mon impression scientifique. Je donne un exemple. J'ai un ami ORL à qui je dis, tu sais, il faudra arrêter de donner du Vastarel à toutes les personnes qui viennent te voir et qui ont un sifflement dans l'oreille parce qu'on a montré que ça pouvait donner la maladie de Parkinson. Et il me répond, enfin, qu'est-ce que tu me dis là? Ça fait 30 ans que je fais ce métier, j'en ai jamais vu. La réalité, c'est que sur le nombre de patients qu'il a, il va pas forcément en voir et pourtant, ça donne la maladie de Parkinson. Et il est incapable de sortir de ce qu'il a vu. C'est un homme empathique, gentil, qui aime ses patients, voilà. Mais il est incapable de sortir de sa position personnelle. Je suis médecin, je veux le bien de mes patients, donc je le fais certainement pour entendre malheureusement une vérité scientifique. Le médicament que tu donnes, hélas, a un risque non négligeable de causer un Parkinson. D'une certaine manière, je suis désolé, vous faites la même chose.
Bruno Falissard.
Alors, il y a... La médecine occidentale s'est construite autour de la science et grâce à ça, elle est devenue une médecine extraordinairement efficace. Dont acte. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors après, un jour, j'ai reçu une ostéopathe qui exerce dans un grand hôpital parisien qui était à 2 mois de la retraite. Et on discute effectivement le jargon qu'il y a derrière l'ostéopathie. Moi, je le trouve surréaliste et un peu magique. Hein, l'histoire d'énergie, etc. Et je lui dis, mais écoute, quand même... comment on peut croire à ça? Et elle me dit, mais leurs mots sont faux, mais leurs gestes sont justes. Et il y a des pratiques médicales, effectivement, qui reposent sur des théories un peu abracadabrantesques, et c'est pas raisonnable. Mais derrière, il y a une tradition d'un acte médical qui peut être intéressante, et moi je défends que l'on fasse de la recherche scientifique là-dessus. Parce que ces soignants ont une expérience qu'il faut étudier pour enrichir notre pratique clinique.
L'ostéopathie, d'ailleurs, ça fait partie des pratiques de médecine alternative, disons, que vous avez étudiées avec votre laboratoire à l'INSERM. Bruno Falissard, quelles ont été les conclusions auxquelles vous êtes arrivé?
Alors là, comme il n'y a pas de firme pharmaceutique, naturellement, il n'y a pas d'études. Donc on sait très peu de choses. Alors, on regarde à l'international. Alors vous savez qu'il y a un mélange de chiropratique, d'ostéopathie, etc. Alors là, on ne peut pas parler de placebo, parce que comme il n'y a pas de médicament, qu'est-ce que c'est qu'un placebo d'un geste thérapeutique? Néanmoins, on peut dire quand même que quand vous avez mal au dos, allez voir un ostéopathe. Mais ça fait le même effet que de prendre un anti-inflammatoire non stéroïdien. Alors, l'anti-inflammatoire non stéroïdien coûte beaucoup moins cher, mais il peut vous donner mal au ventre. Et moi, je trouve que c'est au patient de décider. Est-ce qu'il a envie? Alors après, est-ce que c'est remboursé ou pas? Ça, c'est une autre question.
On va y venir.
Mais si vous avez envie de dépenser plus d'argent pour vous faire masser le dos pour ne pas prendre anti-inflammatoire non stéroïdien, ben moi, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée.
Hélène Renaud.
Donc en fait, les études, même s'il n'y en a pas suffisamment, il y en a quand même et elles existent. Hein. Et il y a donc des méta-analyses qui ont été faites, en particulier par Robert Matty en Angleterre. Il a pris toutes les études randomisées en double aveugle contre placebo de traitement homéopathique individualisé. Et il a quand même conclu que l'effet de l'homéopathie était supérieur à placebo. Donc si je peux m'appuyer sur
ça. Ça veut dire quoi, supérieur à placebo? C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a un effet placebo, mais qu'il y a quelque chose en plus?
Non,
c'est
non, ça marche mieux que le placebo, plus vite. Le problème,
et c'est donc, que... qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça? Parce que alors, moi, je suis pas sûr de comprendre. C'est-à-dire, c'est supérieur à placebo, donc
ça ne marche mieux.
Ça veut dire quoi? Qu'il y a un principe actif, par exemple, dans les petites billes qu'on nous donne à ingérer, qui vont avoir un effet curatif, disons, oui, dans le cadre de certaines maladies.
Oui.
C'est ça.
Oui, oui, c'est ça.
Donc, ces études, elles sont suffisamment, comment dire, indépendantes pour vous, pour pouvoir être validées et pour valider le fait que l'homéopathie, ça n'est pas que du placebo, ça n'est pas que, de l'ordre de la conviction chez le patient?
Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, on a été reçus avec les représentants de la société savante à l'Agence du médicament et qui nous ont demandé de leur fournir les dernières études disponibles pour qu'ils puissent évaluer l'efficacité des médicaments. Ils les enregistrent un par un, ils leur font des dossiers.
Hein. Je vous ai vu dodeliner de la tête, Bruno Falissard.
Franchement, moi je crois que l'homéopathie n'a pas intérêt à se lancer dans des études randomisées versus placebo, parce que, de mon point de vue, ce n'est pas la bonne question. Encore une fois, d'ailleurs, il faudrait abandonner ce mot placebo. Aujourd'hui, on utilise le soin contextuel, ben, je préfère ça. Voilà. Dans le contexte du soin, on peut faire du bien aux gens et il est possible que les homéopathes fassent du bien aux gens en tant que soin contextuel. Et c'est moins stigmatisant que ce mot placebo.
Mais quand je prends la main d'un patient parce que je suis en train de lui dire quelque chose de difficile, etc., je fais du soin contextuel. Et dans tout ce que vous avez publié, dans ce que j'ai lu de vos conférences, vous expliquez que ça, c'est inévaluable ou très difficilement évaluable. Que quand on évalue un médicament, par exemple, dans différents pays, on peut pas évaluer la manière dont la relation entre les médecins et les patients dans ce pays fait qu'on donne le médicament.
On ne se donne pas les moyens de le chercher. Alors,
il faudrait être particulièrement intrusif au niveau humain pour le faire, non?
Non, pas du tout. Mais regardez par exemple, on dépense tous les ans sur la planète des dizaines de milliards d'euros pour évaluer des médicaments. Mmh. On ne se pose jamais la question, est-ce que le médicament marche mieux quand c'est un médecin homme ou femme qui le prescrit, vieux ou jeune, riche ou pauvre? On ne veut pas se poser cette question. On considère aujourd'hui dans notre médecine que le soin est industriel, parce que toutes les pilules sont identiques, on oublie que les médecins sont tous différents les uns des autres.
J'entends ce que vous me dites, il y a ce qu'on appellerait un biopouvoir pharmaceutique qui considère qu'effectivement, il suffit de dire aux gens, en dessous de 2 grammes, au-dessus de 2 grammes 20, vous donnez une statine, et puis on n'en parle plus. Et la réalité, c'est qu'ensuite, chaque médecin se pose la question, d'où vient cette exigence? Est-ce que pour mon patient qui est là devant moi, c'est vraiment une chose? Il y a une individualisation du soin qui n'a pas besoin de passer par une pilule de chez Boiron.
Mais justement, Christian Lehmann, sur cette individualisation du soin, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui deux médecines qui se font face aussi dans la façon d'être pratiquée? C'est-à-dire que quand on va chez un ostéopathe, a priori, on va avoir, alors je vais généraliser à dessein, mais une consultation qui va être peut-être plus longue, donc dans laquelle on va se sentir davantage écouté quand on est patient.
Vous voulez dire homéopathe, je pense.
Homéopathe, qu'est-ce que j'ai dit? Ostéopathe.
Ostéopathe, oui, non, juste pour que ça soit clair.
Vous avez raison, je me suis trompé. Homéopathe, voilà. Et puis chez un médecin, disons, traditionnel, où la consultation va être plus courte, où on va peut-être plus rapidement vous donner une ordonnance. Et donc, peut-être que c'est ça peut-être aussi qui va faire que l'effet placebo va davantage fonctionner dans un cadre que dans l'autre, parce qu'il y aura davantage de temps
pourquoi,
qui sera pris.
Expliquez-moi pourquoi un médecin traditionnel ne pourrait pas faire une ordonnance plus courte, avec moins de médicaments, en prenant un petit peu plus de temps.
Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne?
Ça dépend de chacun des médecins. On va pas s'envoyer des ordonnances à la figure, comme on en voit passer parfois dans les pharmacies, avec 25 lignes où il y a marqué sucrus nigrius, machin chouette, 15CH, machin et tout. Tout le monde est capable de faire ça. Les homéopathes comme les médecins traditionnels. Je questionne juste la chose suivante. On est dans une modification dans le rapport au patient, dans la médecine occidentale. On est allé très loin dans une espèce de déshumanisation du soin. Et il y a des médecins, des professionnels de santé, des sages-femmes, des infirmiers qui disent « mais c'est plus possible, on n'est pas juste là pour que le patient rentre à tel truc, que ce soit le protocole, etc. » Donc on essaye de passer à ça, et ça passe par plein de choses. Donc l'éducation thérapeutique des patients, l'empowerment, essayer de leur donner plus de moyens de comprendre ce qui se passe. On ne peut pas essayer d'expliquer aux gens ce qui se passe, ce qu'on a cru comprendre de ce qui se passe dans leur corps, en leur donnant en même temps des granules qui ont été mis sur d'une texture qui s'appelle lux foraminis nigris, qui est de la lumière noire d'un trou noir. C'est-à-dire qu'on a pris un télescope. Pris un télescope. On a scotché un flacon avec de l'alcool et on a fait la teinture mère dont on fait lux nigris. Ou bien il y a du mur de Berlin. Si vous vous sentez un petit peu oppressé par le monde autour de vous, vous pouvez prendre du mur de Berlin 15CH. Ou bien vous pouvez avoir du blaireau écrasé sur la route en Angleterre. Pourquoi ? Parce que le blaireau est un animal qui, dans le vent, dans les saules, a des capacités métaphoriques de hardiesse, d'amitié, etc. Et donc, ils disent clairement dans le document que j'ai là, qui est la preuve homéopathique sur le Western Badger, ils disent « les qualités métaphoriques du blaireau nous promettent un produit très puissant. » Les qualités métaphoriques du blaireau. Je suis pas sûr que ça soit franchement très efficace pour les patients.
Bon, c'est vrai, quand on entend ça, on a quelques doutes, forcément, Hélène Renoux.
C'est très caricatural. Hein, et les médicaments que vous avez cités ne sont pas enregistrés par l'agence du médicament. Et moi, je voudrais revenir sur une chose, c'est qu'en fait, votre vision de la médecine homéopathique, elle est réductrice. C'est-à-dire que moi, j'ai des confrères médecins généralistes dont je ne me sens pas différente du tout, et je sais très bien qu'ils prennent le temps de faire leur consultation, quitte à voir leur revenu dégringoler, comme les miens dégringolent également. Mais ça ne suffit pas, je veux dire, je ne fais pas que écouter mes patients, je leur prescris un médicament qui a une action pharmacologique, et ce n'est pas parce que on n'est pas encore en mesure d'expliciter ce mode d'action que ce mode d'action n'existe pas.
Est-ce que vous ne leur prescrivez d'ailleurs que de l'homéopathie, ou bien est-ce que vous pouvez être amené à leur prescrire d'autres médicaments? Parce que c'est aussi un des problèmes qui est soulevé dans la tribune, c'est-à-dire peut-être parfois de retarder certains traitements en considérant que tout va se régler par, en l'occurrence, l'homéopathie.
Moi, j'ai quand même une conscience de médecin et je suis responsable de mes actes. Je prescris a priori de l'homéopathie en première intention, en m'assurant que je ne fais courir aucun risque à mon patient et aucun retard dans la mise en route de soins indispensables. Et si je n'y arrive pas, je prescris en médecine conventionnelle, évidemment.
Bruno Falissard.
Oui, moi, j'ai l'impression que la tension qu'il y a un peu entre les intervenants ici, elle vient du fait qu'il y a une question sous-jacente, qui est une question grave, et à laquelle je n'ai pas de réponse aujourd'hui. C'est est-ce qu'il est licite qu'un médecin, dans sa pratique, rentre en résonance avec l'irrationalité de son patient? C'est quand nous sommes malades, nous sommes irrationnels. Il y a des dénis de la maladie. On peut considérer, alors que le médecin occidental moderne est positiviste, il est rationnel. Donc il y a un choc dans la consultation entre l'irrationalité du patient et la rationalité du médecin.
Sauf que longtemps, cette rationalité a rassuré le patient.
Absolument. Mais d'ailleurs, c'est toujours le cas. Bien sûr que le patient attend de nous une forme de rationalité, naturellement. Mais il est possible aussi que lorsqu'un médecin ait intérêt à comprendre l'irrationalité de son patient, en rentrer en résonance avec lui pour l'amener lentement sur la voie d'une sorte de guérison. Alors, ce que je vous dis là n'est pas scientifique, hein, mais c'est une vraie question. Nos patients peuvent avoir des représentations cosmologiques très bizarres de la vie, de la mort, etc. Ils peuvent même avoir des religions. Si l'on rentre dans cet aspect de leur fonctionnement, peut-être qu'on va les aider à guérir. Et peut-être que certains soins non conventionnels, qui nous paraissent complètement bizarres et irrationnels, peut-être qu'ils rendent service de cette façon.
Est-ce qu'il peut vous arriver, Christian Lehmann, oui, justement, en raison, oui, de cette dimension irrationnelle, oui, chez le patient, de leur prescrire des traitements non conventionnels en vous disant, moi je sais que ça ne servira à rien, mais peut-être que pour ce patient-là,
Prendre en compte la spiritualité du patient ne signifie pas la partager. Je peux avoir un patient qui croit en Dieu ou qui croient que le monde est sur le dos d'une tortue qui flotte dans l'espace comme dans Terry Pratchett, ça peut m'amuser. C'est pas pour ça que je vais lui vendre des produits qui servent à rien. Je suis pas Albus Dumbledore, on n'est pas dans Harry Potter. Donc, prendre en compte la spiritualité des gens, c'est très bien, mais abuser d'une forme de crédulité ou d'irrationalité, non. On est quand même dans un monde où moi, je suis pas un scientifique pur, hein. Je suis un médecin généraliste qui avait fait des études littéraires, qui est romancier, qui devant un calcul de probabilité transpire comme quand on passait le bac. Mais à force de, si j'ose dire, tolérer l'irrationnel en se disant mais de toute façon tout est bien établi, on sait où on en est, etc. On se retrouve avec Trump à la Maison Blanche, quelqu'un qui vous dit que les vaccins c'est super dangereux et ça sert à rien, qu'il n'y a pas de réchauffement planétaire, etc. Il y a un combat contre la science qui est menée, et l'éducation
qui est menée par l'ordre des médecins aussi, parce qu'il y a quand même quatre disciplines, l'homéopathie, l'acupuncture, la mésothérapie, l'ostéopathie, qui sont officiellement reconnues par l'ordre des médecins.
Mais excuse-moi, mais la question est bien justement que nous avons posé la question à l'ordre des médecins, qui se pose la question, que le lendemain, le cabinet du Premier ministre a sorti un document qui disait quelles sont les différences entre la médecine conventionnelle et les pratiques de soins non conventionnelles. Le ministère rappelle que les pratiques de soins non conventionnelles ne s'appuient pas sur des études scientifiques ou cliniques montrant leurs modalités d'action, leurs effets, leur efficacité ou encore leur non-dangerosité. Que le lendemain, l'ordre des médecins a dit « nous ne pouvons pas trancher seuls, donc nous nous tournons vers l'Académie de médecine ». Et d'autres académies, que l'Académie de médecine a publié plusieurs papiers en disant déjà malheureusement la messe est un peu dite, ça fait longtemps. C'est quand même, l'homéopathie c'est quand même une discipline qui existe depuis 250 ans et sur lequel on comprend toujours pas comment ça marche. Alors soit c'est vachement pointu et on est des débiles parce qu'on a quand même réussi à faire des scanners, à avancer sur les psychothérapies, à faire des choses extraordinaires. Mais il y a un truc qui bouge pas. Depuis que Hahnemann montait sur son cheval et se disait « Tiens, quand j'ai couru très très vite, ma potion est plus diluée, elle est plus secouée et donc le patient va mieux. » Peut-être c'est juste parce qu'il arrivait un peu plus vite près du patient. Mais malheureusement, il est plus là pour qu'on en discute. D'un côté, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a l'ordre des médecins et le reste qui commence à poser des questions parce que dans le monde entier, il y a des médecins qui disent « On va peut-être arrêter là maintenant. »
Il y a quand même une remise en cause, effectivement, aujourd'hui. Moi, j'en avais pas conscience avant de préparer l'émission, mais si ce n'est en France, si on le voit justement à travers notamment cette tribune, mais dans un certain nombre de pays sur ces médecines alternatives, et en particulier sur l'homéopathie, Hélène Renoux, vous l'attribuez à quoi cette remise en cause?
Alors, avant de répondre à votre question, oui. Je voudrais quand même revenir...
Mais vous allez répondre quand même.
Je vous promets. Je voudrais revenir sur cette notion de spiritualité que je voudrais remettre en cause. Il y a des consultations en homéopathie. Par exemple, quand je soigne l'eczéma d'un bébé, je ne pense pas m'adresser à la spiritualité du bébé. J'assois le diagnostic de mon médicament sur des signes cliniques, comme n'importe quel médecin. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui est dite. D'autre part, il y a dans le monde occidental une remise en cause de la médecine homéopathique, alors qu'en même temps, elle croît au niveau des patients, c'est-à-dire qu'elle répond à une attente des patients. Et je pense que les patients sont guéris. Sinon, je ne vois pas pourquoi je continuerais d'exercer depuis 25 ans, hein, médecine générale dans ma banlieue.
C'est vrai que quand on regarde les enquêtes d'opinion, le taux de confiance dans l'homéopathie est assez élevé. Il dépasse même aujourd'hui la confiance dans les vaccins, ce qui pose peut-être aussi un problème. Je ne sais pas si on peut lier les deux phénomènes. Enfin, en tout cas, voilà, c'est le cas aujourd'hui. Je vous laisse poursuivre là
dans le. Et il y a des pays dans le monde qui ont choisi l'homéopathie comme médecine officielle. Il faut savoir qu'en Inde, il y a un ministère de la médecine homéopathique, de l'Ayurveda et de l'Unani, et que ils soignent les gens en Inde. Hein, et ils ont des résultats et ils ont des études parce qu'ils ont des cohortes suffisamment importantes et ils ont le soutien du ministère de la Santé. Donc en fait, moi je crois que les médecins conventionnels, ça leur fait peur parce que c'est quelque chose qui leur échappe.
Alors
et qu'ils
là,
ne
vous
comprennent
pouvez pas savoir
pas.
Avec. Alors
et quand on ne comprend non. pas comment ça fonctionne, ça,
non,
ça,
je comprends
ça
comment
vous donne,
les choses ne fonctionnent pas.
Ça vous donne le vertige.
Ah non,
comment ça
pas.
Se fait que Allez. Ça marche? Comment ça se fait que les patients soient satisfaits? Comment ça se fait que de plus en plus de pays se tournent vers cette médecine?
Non, non mais s'il se passe l'inverse, je suis désolé, je vous ai cité l'Australie, l'Angleterre, les États-Unis, l'Europe. Je veux dire, vous pouvez continuer la mantra, mais à un moment, il faut regarder la réalité.
Est-ce qu'une bonne cohabitation, finalement, peut-être entre ces médecines, cette médecine traditionnelle, disons conventionnelle, et puis ces médecines non conventionnelles, elle pourrait passer par quelque chose qui relèverait de, comment dire, un éclaircissement sur la question du remboursement que vous évoquiez tout à l'heure, Bruno Falisser. C'est-à-dire est-ce qu'il faudrait se dire, par exemple, on ne rembourse que la médecine conventionnelle, et les gens qui ont envie d'aller vers les médecines non conventionnelles, s'ils le font, libre à eux, mais ça n'est pas l'assurance maladie qui va prendre en charge une partie de ces dépenses.
Oui, bien sûr, c'est une possibilité. Alors, il y a des règles. En France, en principe, on rembourse des médicaments quand la maladie est grave et ou quand la taille d'effet du produit est importante.
Sachant qu'il y a différents niveaux de remboursement.
Il y a différents. Mais alors,
attention. L'homéopathie, c'est 30%.
Oui, mais attention, aujourd'hui, on rembourse des médicaments à raison de 150-200 000 euros par an pour des anticancéreux qui ont une efficacité discutable. Et aucun système de santé n'a une approche complètement rationnelle du remboursement du médicament. Donc je pense que c'est... Alors bien sûr, cette question du remboursement des soins non conventionnels est une vraie question, mais elle peut induire aussi des inégalités d'accès aux soins, quand bien même ils seraient non conventionnels, ça c'est aussi une question. Mais moi je voudrais revenir à la question de la science, qui est une question essentielle dans ce débat. Alors est-ce qu'il y a eu une atteinte à la scientificité de la médecine aujourd'hui ? Je pense pas. Autant Trump, on peut discuter, je partage complètement ce point de vue, autant la médecine scientifique est une médecine qui est reconnue et qui est appréciée. Et quand on est très malade, on est très content d'aller se tourner vers la médecine très scientifique.
Mais est-ce que le recours à une médecine non scientifique peut retarder l'accès à la médecine scientifique?
Oui, bien sûr.
C'est ça finalement un des problèmes qui est soulevé.
Oui, c'est incontestable. Quand la médecine non conventionnelle est produite par un médecin, c'est quand même beaucoup moins fréquent. Restons raisonnables. Mais ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, en médecine, on amalgame science et biologie. Et c'est là qu'il y a un véritable problème, à la fois de société et un problème scientifique.
Biologie est une science, non ?
Oui, mais tout ce qui se passe en médecine ne peut pas s'expliquer par la biologie. En psychologie, la psychologie doit aussi être utilisée pour faire de la recherche scientifique. Et je voudrais juste dire que dans les études de médecine aujourd'hui, 600 heures de cours de biologie, entre 5 et 20 heures de cours de psychologie. Et ça explique pourquoi, peut-être, certains de nos concitoyens vont voir des médecins qui font une médecine non conventionnelle.
Christian Lehmann.
Tout à l'heure, vous avez fait un distinguo entre médecine conventionnelle et pratique alternative. Je pense que le distinguo, il est entre une médecine basée sur les preuves et des faits ou des pratiques qui sont illusoires. Et il y a des médicaments, je le redis, comme les médicaments anti-Alzheimer, qui valent pas mieux, ou peut-être pire, qu'une pilule avec du sucre dedans. Le problème n'est pas
sauf
de dire...
Sauf que ça dépend ce que c'est la preuve. Est-ce que la preuve, c'est le patient qui va mieux ?
La preuve, ce sont des études randomisées qui ont montré que malheureusement, ces patients, ça ne retarde pas leur entrée en établissement pour personnes âgées dépendantes, ça ne retarde pas leur dégradation, ça ne retarde pas leur mortalité, au contraire, ça peut donner des accidents vasculaires. Et là où on est dans l'irrationnel, c'est que Xavier Bertrand le savait, Marisol Touraine le savait, Agnès Buzyn le sait, et que ces produits sont toujours remboursés. Donc on n'est pas en train de dire, nous, on est la vraie médecine conventionnelle, il n'y a rien à voir chez nous, regardez, les autres sont des méchants. On est en train de dire, la médecine en général doit se poser la question du médicament, et quand un procédé est illusoire, que ce soit une pilule de lumière noire ou de blaireau écrasé, ou un médicament anti-Alzheimer, il faut se poser la question d'arrêter.
Si vous êtes d'accord, on va laisser conclure Hélène Renoux. Il faut bien que quelqu'un conclue à chaque fois l'émission. Hélène Renoux.
Je vous remercie. Mais écoutez, en fait, je voudrais juste vous citer une étude qui est une étude observationnelle, qui n'est pas une étude en double aveugle, qui a été diligentée par une équipe bordelaise et financée par Boiron, et qui a montré quand même, elle n'a pas prouvé l'efficacité, mais elle a prouvé l'utilité du médicament homéopathique, elle a prouvé qu'il n'y avait pas de perte de chance.
Oui, mais alors vous dites financé par Boiron, ce qui laisse quand même un certain nombre de, comment dire, d'interrogations. Quand alors, c'est un laboratoire qui finance une étude pour prouver l'efficacité de son médicament,
De Big Pharma.
Mais à partir du moment où les institutions ne nous financent pas, mais là, en l'occurrence, c'était quand même un groupe indépendant.
Mais c'est pas que les Boiron, quand
attendez,
même.
Ce n'est pas ouais, que non, les, bon. Ce n'est pas que les, on vous finance pas. C'est-à-dire que, il y a un statut dérogatoire pour ces médicaments qui arrange bien Boiron, puisqu'il n'est pas obligé de le faire, comme a dit Monsieur Falisard, des études à 200 millions d'euros. Donc, il y a un statut dérogatoire. Ils peuvent pas dire après, ah oh oui, mais regardez, il n'y a pas d'études qui sont faites alors qu'ils n'en font pas.
C'est pas Boiron qui dit ça. c'est moi.
Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Christian Lehmann, Hélène Renaud et Bruno Falissa. On va essayer de mettre un maximum. On a déjà mis quelques informations sur notre site, voilà, pour permettre à chacun de se faire son idée sur le sujet. Cette émission, vous pouvez la réécouter, comme chaque jour, sur notre site franceculture.fr, à la page du Gramoud. Vous pouvez également nous écrire. Et puis, le lendemain, en général, on essaie de mettre quelques extraits vidéo de cette émission. Merci à toute l'équipe, Fanny Richer, Leïla Saïdi, Virginie Leduo, Prune Saez, émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Anthony Thomasson. La dispute avec Arnaud Laporte, ce sera 19h03, sachant qu'il est quoi, 19h?
Oui, un tout petit peu passé. Pas de blaireau écrasé, mais quelques ouvrages lyriques au sommaire de cette dispute. On sera à l'Opéra de Lyon, à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Comique. Et demain dans du grain à moudre.
Les réseaux sociaux sont-ils mortels? Twitter, Facebook, MySpace, vous vous souvenez quand vous aviez un compte MySpace?
Et je mets toutes mes compos sur MySpace, toujours moi, je suis le dernier, oui. Je pense. Hein. Oui. Bon, on écoutera ça demain, merci beaucoup Hervé Gardette, à 19h, un peu passé en effet, les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.